Ah bah oui, au moment où j'ai commencé à vraiment augmenter mes consommations, j'ai dû mettre mon père en maison de retraite et puis ma mère allait très très mal dans sa vie, etc. Mais maintenant, j'ai plus vraiment de problème, tout va bien et pourtant, je continue de consommer.
Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Marion, qui est médecin et addictologue, et on va parler notamment du sujet des addictions et comment faire pour s'en sortir. Est-ce que tu peux te présenter, Marion?
Salut Clément, merci pour ton invitation. Je m'appelle Marion Allègre, je suis médecin généraliste et spécialisée en fait en addictologie. Je suis passionnée globalement par la santé, par tout ce qui a trait à la santé, y compris aussi le développement personnel, qui, à mon sens, peut grandement aider aussi chaque personne à se sentir mieux. Et du coup, c'est ce que je fais au cours de mes consultations, donc où j'accompagne les personnes à se libérer de leurs addictions. Je travaille dans un XAPA, donc c'est un centre de soins ambulatoires, et qui gère les problèmes d'addiction, un peu comme à l'image du CMP pour les problèmes psychiatriques. Où on est toute une équipe du coup pluridisciplinaire, des infirmiers, psychologues, médecins, addictologues, et où on prend en charge du coup les problèmes d'addiction. Donc je disais, ça peut être des addictions à des substances ou sans substances. Parfois, ça arrive, ça peut être les jeux, par exemple, les jeux d'argent, ça peut être les écrans, mais sinon, du coup, le plus courant, c'est quand même les substances. Et moi, je dirais que enfin, la substance que je prends en charge le plus, c'est l'alcool.
Comment est-ce que tu définis justement ce que c'est qu'une addiction?
On parle de troubles de l'usage dans les critères maintenant diagnostiques qui sont retenus pour parler de la pathologie addictive. On va définir du coup le trouble de l'usage. C'est en fait, tu as 11 critères et en fonction du nombre de critères qui sont présents, oui ou non, tu vas pouvoir dire si le trouble de l'usage est sévère ou bien modéré ou léger. Les critères, c'est essentiellement en fait la place que prend la substance dans ta vie. Par exemple, ça va être le temps passé à acquérir la substance, ou bien le temps passé à consommer ou à se remettre des effets. Continuer de consommer même si on a essayé d'arrêter, mais du coup des efforts infructueux pour arrêter de consommer. Ça va être aussi continuer de consommer malgré des conséquences néfastes au niveau psychosocial, des problèmes judiciaires ou bien des retards au travail, une perte de lien dans la famille. Donc en fait, ce que globalement, c'est l'addiction qui prend de plus en plus de place dans la vie de la personne, aux dépens des essentiels de sa vie, comme sa vie sociale, sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle. Il y a aussi le craving, donc c'est en fait l'envie impérieuse de consommer, d'avoir cette envie et qui est irrépressible, qui ne peut pas être maîtrisé. Voilà, globalement, en fait, c'est sur ces critères-là que voilà ça, et puis aussi le sevrage, c'est-à-dire en fait si la personne se lève le matin et que elle a des tremblements, qu'elle est très anxieuse, etc., qu'elle n'arrive plus physiquement à se passer de la substance. Ça aussi, c'est un dernier critère. Hein.
Et comment est-ce qu'on fait pour s'en rendre compte? Parce que y a toujours, enfin, j'ai tendance à dire à titre personnel que je suis un peu addict à tout, mais dans des mesures assez restreintes, on va dire. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir justement, parce qu'on a toutes ces questions, j'ose imaginer que vous voulez poser, en gros, ah bah tiens, est-ce que je suis dans tel ou tel critère? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on doit aller voir un addictologue pour savoir si c'est le cas? Est-ce qu'il y a des tests en ligne? Comment est-ce qu'on peut un petit peu savoir et découvrir?
Déjà, c'est logique de se sentir, comme tu dis, là, un peu addict à tout. Je veux dire, on est une société hein, où on est pas mal dans les addictions, dans l'hyperconsommation de plein de choses et tout ça. Après, déjà, il y a un petit peu ce bon sens de bon bah si tu me dis que tu es addict au sport, enfin sauf cas particulier, ou à voir tes amis, ou je sais pas moi, à passer des bons moments, ou voilà, bah forcément, ou à lire des livres, bon bah là clairement on va dire, on va pas dire que c'est une addiction, ça veut juste dire que c'est t'as ce besoin de stimulation et qui est plutôt sain. Après bah du coup quand on est vraiment dans l'addiction, c'est que justement ces substances, comme par exemple l'alcool, il va y avoir des phénomènes qui se mettent en jeu et qui, du coup, au niveau du circuit de la récompense dans le cerveau, vont complètement biaiser notre manière de fonctionner. Et du coup, donc, va y avoir des phénomènes de tolérance, d'accoutumance, où la personne perd en fait vraiment du plaisir dans sa vie. Et elle perd la faculté de prendre du plaisir autrement que par cette substance-là. Mmh. Et donc là, vraiment, là, on est vraiment dans l'addiction. Et parce que ça veut dire que cette personne-là, elle est du coup dans ce cercle vicieux et que ça va être compliqué pour elle de sortir de ça, sauf voilà, de se faire accompagner et tout ça. Donc, on a des personnes, effectivement, qui peuvent nous consulter en demandant s'ils sont addicts. Ça peut être aussi... par rapport à des médicaments, voilà. Sinon, bah oui, enfin il y a le fait bêtement, hein, je dirais, de regarder, enfin les critères d'usage, ils sont quand même facilement trouvables en ligne. Et voilà, toute personne peut aller regarder et voir un peu combien de critères elle coche. Après, bon bah ça peut se faire voilà par un pro. Et après, je dirais que c'est aussi bah en fonction des différentes substances, il y a aussi différentes infrastructures qui sont en place. Par exemple, pour le tabac, bah, il y a Tabac Info Service qui propose aussi des coachings gratuits, enfin, qui propose pas mal de contenu sur son site. Donc ça, c'est aussi en fonction des substances qu'on peut retrouver aussi différentes infos, quoi.
Oui, à chaque fois, c'est différent. Et en fait, ouais, ce que tu me dis, c'est qu'on parle... pas vraiment. En fait, quand on parle d'addiction, on parle pas spécialement d'addiction négative, entre guillemets. C'est-à-dire que si je suis, comme tu le dis, addict au fait d'aller courir tous les jours, en fait, vu que c'est pas dans un extrême excès des conséquences positives, en fait, ça veut dire que c'est pas considéré comme une addiction. En fait, c'est un peu spécial. Est-ce que c'est quelque chose qui est positif pour moi ou pas? C'est un peu ça, en fait.
Complètement, exactement. Et du coup, on a aussi, souvent, on peut avoir l'entourage aussi qui nous consulte parce que ça leur pose problème à eux et que les patients n'ont pas encore, les potentiels patients n'ont pas encore identifié leurs problèmes. Et notamment, donc, chez les adolescents, et du coup, je vais rebondir en même temps sur... ce dont on parlait juste avant, mais chez les adolescents, on peut avoir les parents bah, du coup, qui consultent parce qu'ils sont très inquiets pour leur fils qui passe 11 heures par jour devant les écrans. Et justement, en fait, donc pour ce cas-là, pour les adolescents, bah, en fonction de ce qu'ils font en fait, sur leur téléphone, sur leur écran, derrière, ça répond forcément aussi à un besoin. C'est-à-dire que même si le besoin il est mal nourri, parce que voilà, on va aller jouer à un jeu en réseau, voilà, et que on pourrait aller jouer au foot dehors, mais ça répond quand même, enfin, en fonction de ce que la personne va faire avec son écran, ça va répondre à un besoin qui est complètement, qui peut être complètement différent. Et aussi par rapport à certaines barrières. Par exemple, admettons un jeu en réseau, bah, peut-être que la personne, elle a pas envie de se montrer, qu'elle a des problèmes, avec accepter son physique et que là, du coup, ça lui permet de créer un avatar et du coup, elle se sent forte. Mais en fait, on ne peut pas tout bannir. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que même dans une addiction négative, donc qui est une vraie addiction, bah, ça vient quand même, en général, répondre à un besoin de la personne.
Tu combles un manque souvent. Je parle de ma propre expérience. J'ai été addict quand j'étais étudiant au cannabis. Et en fait, ça a comblé un manque Et notamment, c'était parce que j'étais pas spécialement heureux dans ma vie, et donc je compensais par rapport au cannabis. Et c'était aussi, je me rendais compte, enfin je me rends compte maintenant, c'est quand j'étais dans mes phases plutôt hautes, ça permettait de me calmer en fait. Mais c'est souvent ça. Quelle est ton expérience par rapport à ça justement? Pourquoi est-ce qu'on est addict?
Ouais, voilà, c'est ça. C'est par exemple pour l'alcool, parce que je dirais que c'est ce dont j'ai le plus l'habitude, mais il y a souvent par exemple des personnes qui se mettent énormément la pression au travail et du coup qui ont ce besoin de décompresser le soir, et ça vient en fait faire écho aussi à leur construction personnelle. C'est-à-dire que si par exemple, voilà, on se construit avec nos parents, etc., mais on a forcément aussi des manques, des vides, des carences affectives, des choses qui n'ont pas été complètement on peut arriver à l'âge adulte et sans être vraiment complètement mature, voilà, sur le plan émotionnel. Et du coup, il y a des personnes qui peuvent se mettre une pression parce que ça répond aussi à un besoin. Parce qu'en fait, depuis leur plus jeune enfance, ça a été leur manière d'être aimé aussi, de se dire mes parents vont m'aimer si je suis parfait et que je fais tout parfaitement ce qu'on me demande. Sauf que en fait, là-dedans, il y a pas trop de boussole intérieure, enfin il y a pas trop de place au ressenti, voilà, au réel besoin, et ce qui fait que la personne peut s'enfermer en fait dans des schémas. Et l'addiction peut jouer ce rôle du coup de temporiser, enfin de permettre en fait de maintenir la personne un peu comme dans une cocotte minute où voilà on laisse tout ça voilà parce que cette personne-là, elle est habituée à ses fonctionnements de base. Puis après, il y a aussi des personnes qui peuvent avoir vécu un traumatisme à un certain moment. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie grave, ça peut être le décès brutal d'un conjoint. Et où finalement, les émotions vont être trop dures à accueillir sur le moment, et où du coup, l'addiction peut venir pour combler ce vide et se mettre à la place presque de la vie passée. Enfin, et du coup, empêcher aussi de faire le deuil, quoi.
Mais c'est variable et je pense que chacun est différent. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même les grandes tendances et le pourquoi. Et c'est vrai que c'est jamais simple déjà de pouvoir l'analyser et de comprendre la raison. Enfin, toi, c'est quelque chose que tu fais du coup en addictologie de comprendre un petit peu enfin, comment ça se passe.
Alors, je vais te répondre un peu en deux parties. La première chose, justement, j'allais citer un dernier exemple par rapport à l'addiction, c'était le confinement. Où en fait, pendant le confinement, les gens se sont retrouvés chez eux et il y a eu une explosion quand même des addictions. Et du coup, on voit bien que parfois, il y a pas forcément de raison aussi à consommer. C'est-à-dire que parfois, la mauvaise habitude s'installe, elle répond effectivement à des besoins inconscients, mais des fois, on a juste besoin aussi de couper avec des actions qui sont pas saines, et il n'y a pas forcément de vraies raisons. Et ça, c'est quelque chose que aussi les patients reconnaissent souvent. Ah bah oui, au moment où j'ai commencé à vraiment augmenter mes consommations, j'ai dû mettre mon père en maison de retraite et puis ma mère allait très très mal dans sa vie, etc. Mais maintenant, j'ai plus vraiment de problème, tout va bien et pourtant, je continue de consommer. Donc, je dirais que en fait, dans mon travail, il y a toute une partie où on essaye de creuser sur les mécanismes qui sont pas forcément bien, enfin des mécanismes de défense sur lesquels on se construit pour survivre potentiellement depuis qu'on est enfant, et de voir comment est-ce qu'on peut effectivement transformer la vision des choses, voilà. Donc ça, c'est une première partie, et il y a une deuxième partie qui se fait en parallèle, et qui est vraiment le passage à l'action. En fait, ok, donc concrètement, là, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent cette semaine par rapport à la semaine dernière? Et voilà, et de viser sur les plus petits pas possibles. Parfois, c'est pas possible, Parfois, la personne est vraiment incapable de diminuer et on est obligé de passer soit par des cures ou des sevrages en ambulatoire, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment ce travail aussi assez pragmatique de, un peu comme quand, enfin, pour une pratique sportive ou un régime diététique, etc., où on est obligé évidemment de prendre des habitudes qui, j'allais dire, qui sont mauvaises, mais non, des bonnes habitudes, mais qui peuvent paraître mauvaise pour l'inconscient dans le sens que voilà, c'est peut-être plus difficile effectivement de boire une tisane que de boire un verre de vin rouge quand on veut attaquer le ménage en rentrant chez soi et qu'on est habitué au verre de vin rouge ou de se prendre, je sais pas moi, un truc à lire ou et encore une fois, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça aussi. Mais à un certain moment, ça passe aussi par le passage à l'action et qui, en soi, n'a pas de raison. Donc, je dirais que ça, c'est un peu aussi personnel à chaque soignant, puisque là où, à la base, moi, j'ai été formée à Sainte-Anne, je sais que mon chef de service, il considérait qu'il n'y avait pas de raison à l'addiction.
D'accord.
Voilà. Et après, bon, il y avait quand même du travail psychologique qui se faisait avec des psychologues dans le service, mais. Donc voilà, moi, je dirais que j'ai une approche qui est mixte, où je me dis, bah, ok, il y a peut-être une raison, mais en fait, on ne peut pas s'y attarder trop, trop, parce que de toute façon, il faut aussi qu'on permette à la personne de fonctionner autrement.
Et c'est vraiment ça, ce que tu dis, en fait, c'est un peu le concept de remplacement. Donc, c'est j'ai quelque chose que je fais ou j'ai l'habitude de le faire. Mais tu parlais, tu vois, du concept de la tisane par rapport au verre de vin. Mais c'est comment est-ce que je fais pour transformer ce comportement pour quand même avoir quelque chose qui va me donner du plaisir? Et comment est-ce que tu vois ça? Parce que ça, la conduite du changement, je trouve que c'est tellement important et je trouve que c'est tellement peu évoqué d'ailleurs. Parce qu'on dit toujours aux autres, et voire même à soi-même, ouais, bon, bah là, j'ai mangé un McDo, j'aurais préféré, j'en sais rien, manger un Pokéball pour avoir un peu plus de fruits et de légumes. Mais pour autant, comment est-ce que tu fais pour avoir ce déclencheur, qui n'est pas super compliqué dans mon cas, mais au final, qui l'est pour certaines personnes beaucoup plus, et de justement avoir cette volonté, parce qu'on parle beaucoup de volonté en soi. Enfin, qu'est-ce que toi, tu vois justement par rapport à ça?
Alors moi, je sais que, enfin, je me suis formée à la programmation neurolinguistique. Donc bon, c'est pas scientifique, mais en tout cas, c'est pas mal de méthodes et d'outils qui ont été réunis et qui sont quand même assez sensés, je dirais, même s'il n'y a pas forcément de d'étayage scientifique. Mais en tout cas, il y a du coup une notion que je trouve intéressante en PNL, programmation neurolinguistique, où on dit qu'en fait, une personne pour devenir en fait, on attend à ce qu'un jour elle devienne inconsciemment compétente, c'est-à-dire qu'elle puisse réussir à faire la chose qui est saine pour elle de manière inconsciente, c'est-à-dire complètement automatique. Mais pour ça, il faut qu'elle passe par différentes phases. Donc au départ, elle est inconsciemment incompétente, elle ne sait pas en fait qu'elle ne sait pas faire. Voilà, donc pour ton histoire, par exemple, la personne, elle va aller chez McDo et elle va même pas se rendre compte que c'est mauvais pour elle. Ensuite, elle va devenir consciemment incompétente. Donc, elle va commencer à se mettre en observation et se dire, bah tiens, oui, c'est vrai que je vais au McDo, mais finalement, il y a le truc de Pokéball en face et je pourrais y aller. Donc, elle commence à se détacher, en tout cas en termes de perception et d'observation d'elle-même. Il y a une partie d'elle, de sa conscience, qui commence à comprendre que, bah, tout le champ des possibles ne se résume pas voilà, à la consommation du McDo. Et ensuite, il y a du coup la phase consciemment compétente. Donc, ça peut être plus ou moins long hein, en fonction, enfin, sur les différentes phases. Et puis, parfois, ça peut aussi, tu peux repasser, ça prend longtemps quand même, ce processus-là. Et du coup, ça peut prendre du temps de passer d'une étape à l'autre. Et puis, parfois, tu replonges dans le truc d'avant. Voilà, en fonction de ce qui t'arrive dans ta vie, etc. Mais ensuite, du coup, tu arrives sur le consciemment compétent. Donc, en gros, ok, bon, là, je vais franchir le Pokéball, mais je vois quand même le McDo, quoi. Je me dis, ah bah, pas, oh, bon, voilà, mais c'est pas facile, mais je le fais quand même. Voilà, et puis après, finalement, ben, c'est devenu tellement ancré que voilà, je suis inconsciemment compétente. Donc, ça veut dire que je mange un Pokéball et. Ça me fait rien, ça me fait rien pour le McDo. Enfin, je sais que c'est bon pour ma santé, je le ressens, j'en ressens les effets bénéfiques et finalement, j'ai même plus envie du truc qui me faisait du mal, quoi. Ça, c'est la première chose. C'est voilà les phases d'observation et qui permettent petit à petit de transformer notre comportement. Et après, bah, on n'est pas des êtres complètement parfaits et enfin et complètement angéliques, voilà. Donc, on a forcément des parties qui sont plus diaboliques entre guillemets. Donc, il faut aussi accepter qu'il y ait une partie de ce qu'on fait, bah, qui est pas du tout en accord avec ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Donc, un peu à l'image de pour les régimes diététiques, de ce qu'on appelle le cheat meal, donc les jours où voilà, on s'octroie un repas qui est complètement énorme par rapport à d'habitude, mais on sait que ça va être aussi un moyen pour notre corps bah, de digérer en fait beaucoup trop d'un coup, mais aussi du coup de ne pas s'habituer à être tout le temps en privation et du coup de pouvoir maintenir une perte de poids. Voilà, et puis aussi au niveau inconscient, bah, ça permet d'avoir quand même un effet récompense. Alors, c'est controversé quand même pour l'addiction parce que on a quand même une phase pendant l'addiction où parfois on est obligé de passer par l'abstinence parce que sinon, en fait, les mécanismes sont tellement ancrés que si on buvait un verre enfin, boire un verre le samedi soir avec ses amis, c'est pas forcément possible en fait au départ. Peut-être que quand tu as arrêté le cannabis, il y a eu un moment aussi où tu es passé par une phase où tu pouvais plus voir tes amis qui fumaient, etc. Parce que il fallait que tu te concentres sur cet arrêt, quoi.
J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti.
Personnellement, en fait, je me suis dit, ok, minimum pendant un an, il faut plus toucher à quoi que ce soit, etc. Et après, bon, ça m'arrive, je ne devrais pas le dire sur mon podcast, mais m'arrive une fois tous les 3 mois de fumer sur le bed d'un pote. Mais en fait, je suis d'abord passé par cette phase de ouais, je niette. Et en fait, ouais, c'est un peu ce que tu expliquais, c'est que bah, inconsciemment, je n'en ressentais plus le besoin. Et à partir de là, et je le sens, et je sais d'ailleurs que ce n'est pas bien, mais. J'essaie de. C'est ça qui est très, très compliqué. Il faut se fixer des règles qui sont strictes et en même temps, c'est la part de soi qui est de se dire, bon, ben voilà, je ne suis pas parfait et il ne faut pas non plus culpabiliser. Comment tu vois les choses? Parce que je trouve que c'est un peu un discours intérieur qu'on a à chaque fois et qu'on a tous à certains niveaux de se dire, ouais, donc je suis ambitieux avec moi-même et donc je veux avoir un comportement qui va être positif. Mais en même temps, comme tu dis, on est humain, on a des rechutes. Comment tu vois le côté culpabilisation et comment faire par rapport à ça?
Alors, c'est sûr que la culpabilité n'aide pas du tout hein, dans le process. Donc ça, moi, je la considère comme une croyance limitante, en fait. Voilà, parce que en fait, la personne, chaque matin, il y en a qui me disent, voilà, bah, je me réveille chaque matin et docteur, voilà, et je me dis, ce soir, j'arrête. Et finalement, le soir, je sors de mon travail et c'est plus fort que moi. Je vais à l'épicerie et je reprends des bières. C'est horrible, et ça. Mais du coup, quelque part, voilà, c'est comme s'ils s'hypnotisaient aussi de se dire, bah, je ne peux pas faire autrement, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai perdu du coup le fil de ma
Non, mais
pensée?
c'est sur comment, parce que les rechutes et le fait de
Ouais.
culpabiliser qui n'a pas eu
Voilà.
de comportement.
Ouais, il y a la culpabilité et puis il y a le temps aussi du cheminement parce que de toute façon les règles entre guillemets de chacun sont propres vraiment à chaque personne, enfin le cadre qu'elle se fixe pour sa vie. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner parce que ça permet en tout cas de garder un œil de garder un certain recul en fait par rapport à quelque chose qu'on se fixe et en même temps bah, ça permet de fixer des choses qui sont harmonieuses. Enfin, par exemple, parfois peut-être qu'une personne va être tentée de se fixer des résolutions qui sont avec des exigences très hautes et puis finalement le lendemain elle va complètement se décourager. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avancer petit à petit et c'est pour ça que Quelqu'un qui accompagne, bah, un psychologue, un addictologue, un médecin, tout ça, ça va permettre de, voilà, de fixer la démarche dans le long terme. Parce qu'il y a aussi ça aussi, c'est que les personnes qui sont dans les addictions, bah, souvent, elles aiment être focalisées sur une idée et c'est comme si elles n'arrivent pas à faire des plans long terme. Donc, il faut vraiment pouvoir ancrer aussi la démarche dans le long terme. Donc, il y a la culpabilité, mais il y a aussi les mauvaises habitudes en elles-mêmes, enfin, qui peuvent prendre du temps à s'en aller, quoi. Donc, c'est vrai que pour le coup, bah, la culpabilité, voilà, hein, il y a ce travail à faire effectivement en accompagnement où nous, on accompagne beaucoup les gens pour voilà, leur permettre de justement de ne pas se sentir coupable et d'avancer. Et puis après, en termes de voilà de cadre que les personnes se fixent, bah ça va être voilà vraiment propre à chacun. C'est-à-dire comme toi tu dis, bon bah voilà moi je peux refumer une fois de temps en temps tous les 3 mois. Et il y a des personnes pour qui soit ça va être trop difficile de faire ça, soit enfin, ça va pas être adapté et qu'ils vont être sur une abstinence. Et au contraire, des personnes qui bah, eux, ça leur va bien de consommer un petit peu tous les jours, mais ils ont quand même drastiquement réduit, donc ils sont contents. Et ça, de toute façon, c'est une alliance, on va dire, entre le professionnel de soins et la personne. Mais la personne est toujours très ambivalente, en fait. Enfin, comme cette substance a une place qui est très importante pour elle dans sa vie, bah, elle a envie de quitter, mais enfin c'est voilà, c'est je t'aime mais je te quitte ou je sais pas quoi, mais enfin elle aime voilà, elle aime la substance et d'un autre côté elle a envie de s'en libérer, donc c'est pas simple. Donc ça se fait de toute façon par étapes.
Et justement, parce que enfin, on parle d'amour, mais c'est un peu ce côté-là, ouais, qui est très très profond, très ancré. Et est-ce qu'il y a des, parce qu'on parlait un peu de substitution, de d'alternative. Moi, enfin, je suis curieux d'avoir ton avis, parce que moi, on m'a toujours dit, si tu veux arrêter quelque chose, il faut que tu trouves quelque chose qui va te procurer aussi de la dopamine, qui va aussi te donner du plaisir. Parce que, enfin, je prends un exemple assez simple. Lorsque, enfin, c'est un exemple que j'adore, c'est quelqu'un qui était addict aux cookies. Il mangeait des cookies au boulot. Et en fait, il se disait, bah, en fait, je kiffe ça. Et quand il s'est dit, bon, bah, j'arrête mon cookie. Et le jour où il s'est dit, j'arrête mon cookie, il s'est retrouvé, en fait, à arrêter pendant un jour, 2 jours. En fait, il reprenait son cookie. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était pas seulement le fait de manger le cookie. Pour faire la version assez simple, c'est que en fait, il se levait de son bureau pour aller chercher un cookie. Donc, c'était de sortir de son écran. Et donc, il s'est dit, bon, bah, super, si je me lève pour aller faire quelque chose, déjà, ça va m'aider. Mais en fait, ce n'était pas encore suffisant. Et en fait, au moment où il a réussi à transformer son addiction, c'est le jour où il a compris que en fait, c'est quand il allait voir un de ses potes du bureau pour discuter, faire des blagues. Que c'était assez significatif en termes de dopamine pour compenser le plaisir du cookie. Et en fait, quand il a réussi à se dire, en fait, je fais pas un cookie, mais je fais une pause et je vais faire des blagues avec un pote, c'était assez fort pour qu'il ait envie de le garder dans la durée. Et je suis curieux d'avoir ton avis. Est-ce que c'est des choses qu'il faut reproduire et comment faire? Parce que, mais voilà, je suis curieux de tu me dis ce que t'en penses.
Bah oui, c'est complètement ça, hein. C'est effectivement globalement c'est un peu ça le cheminement en tout cas pour sortir d'une addiction, c'est de se rendre compte déjà que de quel besoin ça vient nourrir, de d'évaluer un petit peu bah, quelles seraient les stratégies alternatives pour pouvoir répondre à ce besoin et petit à petit bah, transformer les comportements dans la vie. Après, par exemple, dans le cas de l'alcool, comme le sevrage en alcool, il peut être mortel. Enfin, en fait, ça peut. Il faut que ça soit quand même encadré médicalement. Enfin, c'est préférable parce que si une personne est vraiment dépendante physiquement, ben, il y a des dégâts qui peuvent être importants à l'arrêt aussi. Et du coup, ben, parfois, enfin, on a besoin de passer par une phase avec des médicaments. Enfin, on peut en avoir besoin ou au minimum des vitamines en tout cas aussi. parce qu'il y a une carence en vitamines qui est reliée à la consommation d'alcool. Le corps n'arrive plus à synthétiser les vitamines. Donc voilà, en fait, il y a globalement ce process, comme tu dis, et avec potentiellement d'autres choses qui peuvent venir se greffer, qui sont soit d'ordre mental aussi. On peut avoir des gens qui ont un syndrome dépressif ou des troubles anxieux ou autres, hein, des troubles de personnalité, tout ça, et qui sont cachés en fait par l'addiction. Donc le jour où on arrête l'addiction, bah, finalement, la personne elle se retrouve avec voilà, une grosse dépression ou un gros trouble anxieux, etc. Donc voilà, il y a toute cette partie-là aussi qui peut nécessiter un traitement médical ou en tout cas une prise en charge médicale. Parce que parfois, ce n'est pas aussi simple, entre guillemets, que ça, même si, globalement, ça reste fondamentalement, à mon sens, quelque chose qui peut se régler comme ce que tu expliquais.
Oui, et après, ça dépend des niveaux, ça dépend des personnes. Et, ça m'a fait me poser plusieurs questions. Donc, tu as différentes étapes, en fait, pour... en fait, accepter aussi cette addiction, en fait, déjà la découvrir, l'accepter, et après, donc, tu vas faire ton changement. Comment, enfin, parce que de l'extérieur, en fait, tout le monde a envie de changer, et j'ai l'impression que le truc qui est le plus dur, c'est la volonté, et le fait de le garder dans le temps sur le long terme. Et toi, qu'est-ce que tu, enfin, en termes de stratégie gagnante, alors peut-être que tu t'en as déjà évoqué, mais est-ce qu'il y a des patterns, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Est-ce que souvent, enfin, si je crois que je parle de la bipolarité, on devient souvent addict pour compenser nos phases. Donc on est en phase, par exemple, hypomaniaque dans mon cas, je vais fumer du cannabis parce que bah, c'est la facilité, ça me calme, ça m'apaise et ça compense cette phase. Maintenant, j'ai trouvé d'autres techniques qui vont être plutôt basées sur la méditation, qui vont être basées sur la parole. Mais ça, c'est ma propre démarche qui est très personnelle. Mais est-ce que toi, tu vois des choses qui sont assez qui reviennent, et notamment pour parler plus spécifiquement, par exemple, des addictions qui sont liées à des phases. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent justement?
De toute façon, les addictions sont toujours liées à des phases parce que, en fait, souvent dans la consommation comme ça, enfin dans le trouble de l'usage, il y a souvent un nœud au niveau émotionnel. On a du mal à faire face à une situation qui est stressante par rapport à des émotions qui sont inconfortables et qui semblent infranchissables. Donc, et c'est comme ça qu'on reconsomme. Donc, c'est vrai que, alors, et que ça soit positivement ou négativement d'ailleurs, un peu comme dans les troubles bipolaires, mais une personne peut avoir du mal à gérer quand il y a, par exemple, une promotion de poste ou voilà, un changement de travail, mais un changement qui s'apparente à quelque chose de positif, ou bien au contraire un licenciement, une perte, etc. Tout ça peut être facteur de reconsommation. Voilà, dès qu'il y a un changement de vie et qui est compliqué à gérer pour la personne, ça c'est sûr. Après, il y a effectivement souvent ce faux ami, enfin en tout cas cette idée assez répandue que l'addiction c'est une histoire de volonté, c'est avec la volonté. Il y a des patients par exemple qui veulent pas se faire accompagner, ce qu'ils disent, bah non, si je veux, je peux, donc si je veux arrêter, j'arrête. Mais en réalité, comme l'addiction elle-même joue sur les circuits de la récompense, diminue clairement notre faculté, par exemple, enfin nos fonctions exécutives, mais dont notamment notre faculté d'inhibition, c'est-à-dire le fait de, si je te tends quelque chose, si je te tends du shit, et tu vas dire non, c'est bon, merci. Et donc ça, c'est prouvé que typiquement, dans l'addiction, on a des circuits qui sont complètement, c'est comme si le robinet était ouvert. Donc la personne, elle est incapable, je lui dis, bah, je te sers un verre de vin, ah bah oui. Et encore plus s'il y a le petit côté émotionnel qui vient se greffer dessus. La personne, elle a eu une journée un peu stressante, elle a dû licencier 10 personnes de son entreprise, je ne sais quoi. Et là, la personne, un collègue lui propose un verre. Bon, ben, on est à peu près certain qu'elle va dire oui parce qu'elle est incapable de faire autrement. Donc ça, bah, c'est... c'est pas, enfin, je veux dire, en fait, voilà, tu parlais de la persévérance, de faire, de tenir en fait sur le long terme, en gros, ces résolutions, quoi. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Je dirais qu'il y a y a parfois des prises de conscience dans la vie des gens. Parfois, il y a une image qui peut vraiment les troubler, quoi. De se dire, oh, je me suis vue, mettons, avec mes enfants, j'étais à vélo et je venais de prendre une bière et j'étais content et je me suis dit, mais comment c'est possible de ne pas pouvoir être heureux, mettons, sans alcool? Et enfin, il y a des gens qui. Parfois, y a quelque chose qui peut leur envoyer, ou ça peut être une photo, ou parfois le fait de. Il y a des personnes qui écrivent des mails à leur entreprise et qui sont alcoolisées. Et où, du coup, quand ils vont relire le mail, ça va vraiment les choquer. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des moments où la personne, elle a une grosse prise de conscience, elle se dit non, là, je veux plus être comme ça, je veux plus m'identifier à ça. Mais bon, ça peut prendre un peu de temps. Et il y a aussi, du coup. Voilà, c'est pour ça que la posture du soignant, enfin de la personne qui accompagne, elle est vraiment hyper importante. Moi, c'est vrai que je joue beaucoup, donc ça s'appelle l'entretien motivationnel. Enfin, c'est une technique voilà qu'on utilise. Moi, je joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire c'est à la personne de gérer ses propres résistances. C'est-à-dire, j'ai une dame. Elle est médecin et elle a consommé depuis des années de l'alcool et aussi de la codéine, etc. Et je ne l'ai pas vue pendant plusieurs mois parce qu'elle venait plus du tout. Et puis elle revient et donc en fait c'est un peu sa médecin généraliste qui l'a poussée à nous reconsulter. Et parce qu'elle voulait aussi l'envoyer en cure parce que vous voyez bien qu'elle ne s'en sortait pas seule. Et elle revient me voir et puis à partir du début de l'entretien, elle lâchait rien. Elle disait mais vous ne m'enverrez pas en cure, je veux pas aller en cure de toute façon, je vais m'en sortir toute seule. Ça. Et puis moi voilà j'ai laissé les choses se faire. On a parlé d'autres choses, etc. Et puis une ou deux semaines après, elle est revenue au XAPA voir une infirmière. Puis une semaine après me voir, elle me dit c'est décidé. Là, je sens que ça va plus du tout. Je vois que je suis violente envers mes proches, etc. Et ça, je ne peux plus supporter. Donc, j'ai besoin d'une cure. Où est-ce que vous pouvez m'envoyer, docteur, s'il vous plaît, etc. Donc, voilà, c'est vraiment. Le plus souvent, c'est vraiment à la personne de petit à petit faire face à ses propres résistances et de se dire non, c'est plus possible. Mais ça peut prendre du temps. Et malheureusement, ce qui est compliqué aussi, c'est que. Bah, plus une personne consomme, plus ça va lui détruire évidemment ses facultés de raisonnement et de ça, et moins quand même elle pourrait avoir des chances de s'en sortir quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de faire connaître en tout cas ces sujets-là et de pouvoir prévenir au maximum effectivement.
Et même, j'ai l'impression que aujourd'hui, on n'a pas spécialement le réflexe d'aller voir un addictologue. Il y a quand même un peu le côté, ouais, mais comme tu le disais, de très, c'est ma volonté, je peux m'en sortir tout seul, et de pas prendre conscience de l'importance, voilà, d'avoir quelqu'un qui va, parce que c'est ton métier, quoi, qui va pouvoir t'aider step by step. Après, il y a plein de sujets, mais il y en a peut-être un que je trouve hyper intéressant, c'est l'aspect culturel et le rôle en fait des proches autour de la personne. Et moi, c'est un truc que je trouve assez choquant, notamment par rapport à l'alcool, où on a des sollicitations qui viennent de partout. Je me mets à la place de quelqu'un qui a arrêté l'alcool, de voir des publicités dans les films, et même, je ne sais pas pourquoi, culturellement parlant, par exemple à table, je me suis rendu compte de ça cet hiver, qu'en fait, on va nous servir un verre de vin sans même nous poser la question. C'est vraiment culturellement le fait de dire, bon, bah, en fait, et sans poser la question. Alors que, bah, pour ma part, enfin, je consomme très peu d'alcool, et du coup, je suis contre. Mais ça, c'est intéressant, je pense, de se poser la question aussi de l'entourage, de dire, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de pousser à la consommation? Toi, je sais pas, tu travailles avec les proches aussi, ou comment ça se passe?
Ça arrive, ouais, complètement. Effectivement, je pense que enfin, c'est important que de ne pas juger forcément. Et alors, enfin, je me rappelle de l'été dernier où j'ai une patiente en fait que j'accompagne et qui buvait des alcools très forts. Et où, en fait, du coup, ses parents sont venus avec elle aussi à une consultation. Son père était particulièrement concerné par son problème. Et justement, il avait une attitude où il disait, bon, bah, du coup, quand on va la recevoir à la maison, ça sera plus d'alcool à la maison. Et où elle avait du mal aussi à accepter l'aide, du coup, de ses parents. À dire, oui, mais là, t'en fais trop, tu te prives pour moi, etc. Donc, moi, voilà, j'ai essayé de concilier un peu les deux. Enfin, déjà, de faire comprendre aux proches, effectivement, que c'est une vraie addiction et qu'il y a une maladie à un certain moment voilà, qui s'installe et que, du coup, c'est important. Enfin, il peut y avoir des phases aussi pour diminuer. Ça peut parfois pas se faire brutalement. Et effectivement, bah, que la personne a besoin de soutien et potentiellement, effectivement, pas de sollicitation ou en tout cas pas de jugement aussi. Ah, tu ne bois pas, etc. Enfin, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup le côté culturel où dès qu'une personne elle boit pas, limite, donc c'est soit un alcoolique anonyme, enfin, qui a arrêté. Du coup, tout de suite, c'est culpabilisant, enfin, c'est stigmatisant pour la personne. Soit c'est une femme enceinte. Je veux dire, ça va. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va changer dans le sens que là, scientifiquement, quand même, les études montrent qu'il n'y a pas de niveau d'alcool qui n'est pas dangereux pour la santé. C'est faux, enfin, ce qu'on a entendu de dire oui, boire un verre de vin, c'est bien pour le cœur ou je sais pas trop quoi. C'est pas vrai en fait. Voilà, c'est un peu comme les femmes enceintes où on sait que c'est objectif, c'est zéro alcool pendant toute la grossesse. Bah, en réalité, pour les vies humaines en général, bah, c'est bon de ne pas boire. Mais ça, effectivement, il y a quelque chose de très culturel où on est un pays, voilà, hein, la gastronomie, le bon vin, etc. Et où effectivement, il peut y avoir beaucoup au niveau. Bah, de l'environnement social, familial de la personne, beaucoup de barrières. Parce que c'est vrai que les personnes en général qui sont addictes ont ce problème de lien. Du coup, elles ont un lien qui est trop fort avec la substance, mais elles peuvent aussi avoir un lien trop fort aussi avec les personnes de leur entourage. Et du coup, de dire non, de s'affirmer, c'est compliqué aussi. Donc ça, c'est aussi un travail.
Clairement, et il y a surtout, il y a des, enfin, je pense à des comportements. En fait, on a l'habitude de voir certaines personnes dans certains contextes, et c'est super dur parce que c'est presque une habitude intrinsèque. Je pense à l'alcool, il y a certains amis, on va les voir quasiment pour boire, et c'est super dur parce que bah, en fait, tu t'enlèves presque ce lien social si tu t'enlèves l'alcool. Mais c'est un sujet que je trouve tellement passionnant et tellement peu évoqué, en fait. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'on parle très peu des mécanismes et du pourquoi, du comment. On est toujours dans le côté c'est pas bien, il faut pas le faire. Et on va très peu dans la profondeur des choses. Je te proposerai de faire une V2. Je pense que ce sera marrant de creuser les sujets. J'ai plein de questions auxquelles on n'a pas vraiment travailler. J'ai une dernière question. Si tu avais une baguette magique dans la santé mentale, qu'est-ce que tu ferais?
Ce que je donnerais, c'est vraiment plus de conscience aux personnes pour pouvoir se détacher de leur ego. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu comme le livre de Eckhart Tolle là, sur le pouvoir du moment présent. Mais je pense que lui a pas mal creusé là-dessus. Et puis bon, bah, on est dans une étape, un moment sur la Terre où on est vraiment en transformation sur cette conscience. Mais je pense vraiment que il y a des moments dans la vie. Enfin, nos états d'âme, nos états d'être, ils sont extrêmement fluctuants. On peut passer par des moments où on peut avoir envie de se tuer, tellement on ne se sent pas bien, tellement pour différentes raisons. Et je pense que vraiment, voilà, si j'avais une baguette magique, ce serait d'enseigner aux personnes le détachement par rapport à ça. Parce que je pense que. En fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, ils ont l'impression qu'un jour, peut-être qu'ils auront. Enfin, j'exagère un peu, mais qu'ils auront peut-être plus envie de se suicider. Voilà. ou plus de pensées négatives. Et en réalité, je pense que c'est pas ça. C'est que à un certain moment, on accepte des pensées qui sont pas bonnes, et par contre, on les traite et on leur dit de s'en aller, quoi. Enfin, quelque part, c'est voilà, c'est un peu le principe de la méditation, de la pleine conscience. Mais bah, je pense vraiment que ça peut changer en fait, en réalité, tous les troubles mentaux et les troubles addictifs, parce que enfin, c'est aussi la même chose qui se passe dans le craving. Une personne qui a une envie irrépressible de consommer, l'envie, elle est là. Mais à un certain moment, il faut réussir à la laisser en dehors de soi et la laisser partir pour avancer, quoi. Et je pense que dans beaucoup de thématiques voilà, émotionnelles, on a ça. Que ça soit aussi un deuil, de vouloir s'accrocher à la perte de la personne ou une maladie. Enfin, en fait, voilà, tout est cyclique. Et en même temps, on vit dans un monde où tout le monde veut tout prévoir. Le futur pour dans 30 ans, là on est en train de voir les retraites pour voilà, etc. Donc on prévoit tout comme si tout était figé, et alors qu'en fait pas du tout. Donc voilà, ce serait un peu ça, le pouvoir magique, ouais.
Ouais, non, c'est trop cool. Et non, mais c'est génial parce que tout le monde a des idées différentes, parce qu'on a tous un background qui est, enfin, un passé qui est pas le même. Mais hyper intéressant. J'ai plein d'autres questions, mais ce sera pour une prochaine, Marion. Merci
Avec
beaucoup
plaisir.
d'être venue. C'était trop cool. Et bah, je te dis à la prochaine et je te laisse le mot de la fin.
Ok, bah écoute, avec grand plaisir pour avoir répondu à tes questions aujourd'hui, et voilà, et avec plaisir aussi pour continuer d'échanger à ce sujet.
Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopstage.com, et je vous dis à très bientôt.